Que le Seigneur soit béni. Psaume 80. Dans le psaume 80, une phrase revient trois fois. Et j'aimerais que nous la lisions ensemble. Psaume 80, c'est un psaume que vous lirez chez vous, mais à trois reprises, voilà ce que dit cet homme de Dieu, Asaph. Psaume 80, verset 4. C'est une prière, c'est peut-être la vôtre, j'espère que c'est la vôtre, la nôtre. Psaume 80, verset 4. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Au verset 8, la même prière, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Et le dernier verset, Asaph refait cette même prière, Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, il y a un homme qui a cherché la face de Dieu en s'approchant de Jésus. Un homme qui aurait pu être lapidé, puisqu'il n'avait pas le droit de s'approcher de gens normaux, puisque c'était un lépreux. C'est un homme qui a certainement beaucoup hésité, mais il voulait être touché par la grâce de Dieu. Et ce matin, je commence, avant de lire ce texte, par cette question qui vraiment veut être touché par la grâce de Dieu. Ah, mais c'est sérieux. C'est une question sérieuse, parce que Dieu voit. C'est une question que l'on peut poser, parce que de toute façon, c'est la volonté de Dieu qu'il nous touche. Et ce psaume nous montre bien que Dieu peut faire briller sa face sur un de ses enfants ou sur une église. Lisons cette histoire, Matthieu chapitre 8, verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, ça s'est passé juste après, c'était certainement la plus grande prédication qui ait jamais été faite, puisque c'est Jésus qui était en train de prêcher, le fameux sermon sur la montagne. Une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est extraordinaire ce qu'on va lire, parce que c'est exactement ce que Dieu veut faire dans nos vies. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Et je peux vous dire que cet immense auditoire qui était touché par la prédication de Jésus a dû rester la bouche bée devant cette affaire. Nous lisons ça, on lit, on réalise peut-être pas trop, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Cet homme, l'état dans lequel il était, l'état de misère, l'état spirituel, l'état psychique, l'état physique, un lépreux, quand vous lisez dans le Lévitique ce que le lépreux devait faire pour s'isoler des gens, ça vous fait mal au ventre tellement c'est terrible. Un homme qui devait continuellement, ou une femme, dire impur, impur, un mot qu'il ne devait certainement plus supporter. Il devait se tenir, je ne sais pas combien, 50 mètres ou un peu plus, des gens ou 100 mètres. Voilà, imaginez-vous un homme qui ne pouvait plus embrasser sa femme. Un homme qui ne pouvait plus serrer ses enfants dans ses bras. Qu'est-ce que ça représente, vraiment l'image du péché qui nous prive d'être en bénédiction aux autres? Et cet homme a été touché. Si cet homme a été touché, laissez-moi vous dire que Dieu peut vous toucher à vous. Mais cet homme a fait une démarche. Et cette démarche, est-ce que nous allons la faire? Est-ce que nous allons faire une démarche spirituelle qui consiste à chercher la face de Dieu? Si vous étiez là mardi, nous avons vu la différence entre les chrétiens ou les non-chrétiens, qui font des prières superficielles, superstitieuses, légères, des prières abominables même, puisque la Bible dit que celui qui écoute la parole, celui qui n'écoute pas la parole, sa prière même est une abomination. Donc on ne va pas résumer ce que j'ai dit mardi, mais on voit très bien que la Bible nous montre qu'un chrétien peut faire des prières qui ne veulent rien dire. Le gars, en plus, il ne sait même pas si Dieu l'entend, il est tellement dans le doute, dans la confusion, dans le péché, il est tellement loin de Dieu, il est là, il se permet de juger la parole de Dieu, il se permet de critiquer Dieu parce que ses prières ne sont pas exaucées. Vous voyez qu'on n'est pas dans la piété, mais il y a ceux qui cherchent Dieu. C'est avec ce avec quoi nous avons terminé la réunion, nous avons vu des bénédictions qui se rattachent aux gens qui cherchent Dieu. Et que vous le vouliez ou non, moi le premier, nous sommes dans un camp ou dans l'autre, où nous sommes superficiels avec Dieu, où nous sommes sérieux. si vous le savez quand même, si votre piété est égale ici et demain soir ou mardi matin, parce que quand on est avec Dieu, je crois qu'on a de la piété le lundi autant que le dimanche. Oui ou non? Et quand vous avez, il y a des chrétiens qui sont pieux que le dimanche matin parce qu'ils sont dans une église, etc. Bon, là, ça fait partie du premier groupe. La différence entre ces chrétiens du premier groupe et ces chrétiens qui ont une véritable piété, qui cherchent Dieu, elle est aussi grande que la différence qu'il y a entre le ciel et l'enfer. Ça, c'est clair. Le premier manifeste de la stérilité, et le deuxième peut véritablement porter du fruit. Voilà pourquoi il est important de chercher la face. Et David savait bien, Asaph savait très bien ce qu'il disait lorsqu'il a dit « Fais briller ta face et nous serons sauvés ». Si vous lisez le psaume 24, on peut y aller si vous voulez de toute façon. Dans le psaume 24, il y a une bénédiction qui se rattache à ceux qui cherchent Dieu. Alors, les versets sont immenses, qui nous parlent de la bénédiction à chercher Dieu. Mais par exemple, on peut lire juste un verset ou deux. Dans le psaume 24, qu'est-ce qui est écrit ? Voyez, au verset 5, ceux qui cherchent la face de Dieu. Regardez, verset 5, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent la bénédiction? Ne la demandez pas. Cherchez Dieu et vous l'aurez. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face. Alléluia. Voilà ce qui se passe lorsqu'un homme cherche Dieu. Il cherche la présence de Dieu. Il cherche la face de Dieu. Il ne prie pas juste pour prier. Vous savez, moi, quand j'entends un chrétien qui commence à venir me voir, « Oh, mais je prie, vous savez, ça ne sert à rien. » Il est dans le premier groupe, c'est évident. Parce que moi, je peux vous dire que je ne me vois pas en train de critiquer celui qui a institué la prière. Parce que je crois que d'avoir institué la prière, moi, je trouve que c'est une grande bénédiction. Parce que nous ne nous rendons pas compte du pétrin dans lequel nous serions si Dieu n'avait pas institué la prière. Bon, nous, ça paraît normal. Mais laissez-moi vous dire que si Dieu n'avait pas institué la prière, nous serions vraiment très, 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 très mal. Alors la prière, pour vous, c'est une bénédiction ou c'est une corvée, hein? C'est important de dire ces choses. Ce lépreux, il représente ceux qui cherchent Dieu, même si ça va très mal. Parce que Dieu a une main qui bénit. Vous n'êtes pas heureux de voir que après le sermon sur la montagne, c'est un lépreux couvert de la tête aux pieds qui a été béni. Est-ce que vous vous rendez compte de l'enseignement que c'est pour nous? Peut-être que quelqu'un ce matin se trouve dans cette situation de péché, d'éloignement, d'égarement, de misère. Est-ce que ça peut nous arriver de passer des mauvaises semaines et de se retrouver dans la misère? Et oui, ça peut nous arriver. Mais imaginez-vous, les gens, ils ont dû rester tout bêtes. Il y en a qui ont dû dire, mais en rentrant à la maison, moi, je m'imaginais tout ce qui a pu se dire lorsque les gens, après ce sermon, sont rentrés à la maison. Ils ont dit, mais tu sais pas ce qu'on a vu. On a vu un truc de fou. Tu ne peux pas t'imaginer. On a vu, tu sais, le gars, là, le fils du charpentier, tu sais pas ce qu'il a fait. Tu sais pas ce qui s'est passé. Mais en plus, c'est drôle. Il a touché un lépreux. Est-ce qu'on pouvait toucher un lépreux? Il y en a qui ont dû dire, mais c'est pas possible. Ça vient pas de Dieu. C'est pas possible. Ce rabbi, c'était peut-être chouette son sermon. Mais la loi interdit. Est-ce que la loi interdisait pas de toucher un lépreux? Oui, la loi. Mais le Jésus est venu, il a porté la grâce. Et ce matin, si la religion, elle fait que condamner les gens, parce que la religion, elle fait que ça. Elle fait que nous éloigner de Dieu. Mais la grâce, elle nous touche. Et ce que vous et moi, quel que soit votre niveau spirituel, nous avons besoin, c'est que la grâce du Seigneur nous touche. C'est que sa main nous touche, sa main à lui. Vous n'avez pas envie que la main bénie du Seigneur vous touche? Est-ce que nous nous rendons compte de ce qui se passerait dans une église si la main du Seigneur nous touche? Parce que moi, la question que Jésus a posée un jour à la piscine de Bethesda, vous vous rappelez? Jésus arrive dans un endroit où il n'y avait que des malades, des paralytiques, des aveugles, des estropiés, et il s'approche d'un homme, un sur cette foule, et il dit à cet homme qui était malade depuis 38 ans, paralysé depuis 38 ans, il lui pose la question, que si ce n'était pas Jésus qui l'a posée, ça pourrait prêter presque à sourire, « Veux-tu être guéri ?» J'imagine les yeux du bonhomme. Veux-tu être guéri? Non mais attends, ça fait 38 ans que tu es malade? Quelqu'un aurait pu lui dire à côté, mais tu plaisantes? Ça fait 38 ans qu'il est malade et tu lui poses cette question? Mais vous savez, quand ça vient de la bouche de quelqu'un, on peut dire c'est mal placé. Mais quand ça vient de la bouche de Jésus, c'est sérieux. Et si Jésus pourrait poser la question ce matin à vous et moi, est-ce que tu veux être guéri? Bien sûr que tout le monde, au premier plan, m'a dit, mais oui, oui, mais bien sûr, quelle question, M. Gault. Est-ce que nous voulons vraiment être guéris? Il y a des gens qui s'accrochent à leur colère. Il y a des gens qui sont toujours en colère. En colère parce que si. En colère parce qu'il s'est passé cela. En colère contre le patron qui est comme ci, qui est comme ça. Ils ont gardé de la rancune dans leur cœur. Ces gens-là pourraient dire, non, je ne veux pas être guéri. Si c'était honnête, parce qu'ils s'accrochent à leur amertume, à leur méchanceté, à leur manque de pardon. Est-ce que ça n'arrive pas qu'il y ait des chrétiens qui ne veulent pas pardonner? Ça n'arrive pas? Répondez-moi. Ça n'arrive pas? Eh bien, c'est la preuve que ces gens pourraient répondre, s'ils étaient honnêtes, non, je ne veux pas être guéri. Et cette question, Dieu a le droit de nous la poser. Elle est dans la Bible, donc on n'a pas à se tromper. Il peut nous la poser. Est-ce qu'on veut être guéri? Les chrétiens qui s'accrochent à leur passé. Je ne sais pas, le lépreux, pourquoi il était lépreux? Pourquoi il était lépreux? Quand vous regardez dans le Lévitique ce à quoi correspond la lèpre, vous avez de quoi fuir le bonhomme. Mais moi, je peux vous dire que Dieu, il ne nous fuit pas. Le Seigneur, ce matin, il veut nous toucher. Cette expérience, elle n'est pas là pour nous faire rêver, dire « Ah, c'était chouette ». Cette expérience, elle est là parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et que ce matin, Dieu peut vous toucher. Même les enfants qui sont dans ce coin ou dans l'autre. Est-ce que vous croyez que Dieu peut toucher vos enfants? Parce que vous savez, quand Dieu nous touche, vous savez, ça rejaillit sur les autres. Et croyez-moi, la puissance du Saint-Esprit est telle que quand on découvre la face de Dieu, eh bien, nous serons guéris. Nous serons sauvés. Oui, le ciel est fermé. Parce que je pense à ce texte où justement on dit, mais si tu cherches la face, quand le ciel serait fermé, on va y aller. Dans 2 Chroniques 7,14, vous connaissez ce texte? Qui ne connaît pas ce texte? Si vous ne connaissez pas, c'est certainement un des textes les plus connus du Nouveau Testament. Salomon est conscient que ça ne va pas du tout. Salomon se met à prier et il prie. Et je vous assure qu'il prie. Puisqu'il est dit au chapitre 7, au verset 1er, lorsque Salomon eut achevé de prier. Cet homme, il a reçu beaucoup de Dieu. Il va faire des grosses gaffes, parce qu'il ne va plus chercher Dieu, malgré toute la sagesse qu'il a reçue. Cet homme, il prie parce qu'il est conscient qu'il n'y a que Dieu qui peut rétablir son royaume. Et lorsqu'il a fini de prier, Dieu lui parle. Au verset 13, 2 Chroniques 7, verset 13. Regardez bien le verdict. À cause du péché, donc, quand je fermerai le ciel, ça c'est un problème, quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, alors il y a le si, si mon peuple, il faudrait que ça devienne quand mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Tout à l'heure, quelqu'un a prié, Seigneur, tu peux guérir le pays. Je crois que c'est Lucien, non, qui a prié. Avant le culte, maintenant, je ne sais rien. Quelqu'un qui vient pour la première fois pourrait dire, mais il rêve, le pauvre. Mais moi, je ne rêve pas. Je crois que Dieu peut guérir notre pays. Il ne le guérira pas avec les hommes politiques. Les hommes politiques, ils n'ont pas la puissance de Dieu. Les hommes politiques, ils sont dans le péché. Vous le voyez de plus en plus. Et notre ciel, il est fermé. Et je ne veux pas faire d'allusion parce que dans une église, c'est tout le temps mal perçu quand on fait une allusion à ce qui se passe au niveau politique. Cette semaine, je crois que j'ai regardé les infos, 5 minutes. 5 minutes. Les 5 minutes où j'ai regardé les infos, je suis tombé sur le Conseil constitutionnel qui a voté une loi par rapport à la conscience des mères qui ne veulent pas marier les homosexuels. Mais franchement, quand j'ai entendu ça, j'ai pensé au verset que M. Ollet nous a cité jeudi, quand il a dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien ». Vous avez entendu? Et ça, je peux vous dire que si ça ne verrouille pas le ciel au-dessus du pays, c'est obligé. Le ciel ne peut que se verrouiller quand les sages entre guillemets, vous le comprendrez, ont osé accepter un truc pareil. Ne même pas respecter la liberté de conscience d'un maire qui refuserait. Moi, je serais maire, mais je démissionnerais. Je serais obligé. Enfin, je ne sais pas comment vous le voyez. Moi, je serais maire, c'est certain, je ne pourrais pas. Autant on doit avoir de la compassion pour ces gens-là, autant on doit avoir de l'affection et de l'amour, c'est sûr qu'on doit tout faire pour les amener à la croix. Dans l'église de Corinthe, il y avait des anciens homosexuels qui se sont repentis et qui se sont convertis. Mais tout ça pour vous dire, ce n'est pas pour faire un débat politique, tout ça pour vous dire que c'est obligé que le ciel se ferme. C'est ça que je veux expliquer, c'est surtout un point spirituel. Mais, le ciel peut s'ouvrir. Sur une assemblée, sur un homme, sur une femme. Car vous avez vu, quand je fermerai le ciel, quand je fermerai, alors on pourrait prendre d'autres textes, c'est très 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 intéressant, parce que quand je fermerai le ciel, quand Dieu décide de fermer le ciel, comme ça a été le cas du temps d'Élie, où Dieu a dit, voilà, pendant 3 ans et demi, je fermerai le ciel. C'était grave. Dieu a dit, je fermerai le ciel. Et pourtant, il a ouvert le ciel sur une veuve du Liban, à Sarepta. Vous vous rappelez cette affaire? Le ciel était fermé. Mais Dieu, dans sa bonté, a voulu ouvrir le ciel sur une femme, une arabe. C'est pour ça que les juifs étaient fous quand Jésus a dit ça. Et qu'ils voulaient le tuer. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la leçon. C'est que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu, il bénit les gens qui le cherchent. Et cette femme, quel que soit le désarroi dans lequel elle se trouvait, elle a vu le ciel s'ouvrir sur elle. Et c'est ce qui peut se passer aujourd'hui. Moi, je peux vous dire que dans la société, et la politique en particulier, tout est fait pour que le ciel soit des reins, verrouillé. Et la seule puissance bénie qui existe, c'est la puissance de Dieu. Donc si nous voulons que le ciel s'ouvre, il faut que nous prenions ces choses au sérieux et que nous n'ayons pas de prières superficielles, qu'un intérêt personnel, parce qu'en plus, on devrait être calé d'office quand on... calé dans le sens de bloqué, on devrait être bloqué de suite. Quand on cherche Dieu, vous n'avez pas besoin de demander la bénédiction. Vous le savez. Ceux qui ont déjà cherché Dieu dans leur vie, vous n'avez pas besoin de dire une fois, bénis-moi. Vous n'avez même pas besoin de le dire. Parce que vous savez que le Seigneur vous bénira. Donc, oui, le ciel se ferme. C'est sûr que tout ce qu'on voit, et je ne sais pas si vous faites le rapprochement quand vous écoutez les infos, que c'est vraiment grave. C'est d'une gravité totale. Mais enfin, bon, ça ne fait qu'attirer la colère de Dieu et ça ne fait qu'attirer l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est une chose qui nous dépasse, mais il y a une chose que l'on peut gérer. C'est, est-ce que nous voulons que le ciel s'ouvre au-dessus de l'Église? Est-ce que nous voulons que le ciel s'ouvre au-dessus de votre vie? C'est personnel, parce que vous avez vu avec moi, si mon peuple, et ailleurs il est dit, si un homme. Vous voyez? Donc, ça, c'est individuel ou c'est collectif? Parce qu'on ne peut pas obliger les autres. Est-ce qu'on peut obliger les gens à chercher la face de Dieu? Est-ce que vous pouvez obliger même votre conjoint à chercher la face de Dieu? Est-ce que vous pouvez obliger vos enfants à dire « on va chercher la face de Dieu ». Voilà, c'est comme ça que ça marche, je l'ai décidé. Non, il faut que ça vienne du cœur. On est dans une église. C'est dans les sectes où on contraint les gens, où on les oblige, où on les force. Il faut que tout soit du cœur. Quand vous vous mettez à genoux pour prier, il faut que ça soit une joie, même si derrière il y a un combat. Mes frères et sœurs, si mon peuple... Si un homme ou une femme, un enfant, un vieillard, ça n'a rien à voir avec l'âge, ça n'a rien à voir avec la condition de vie, avec la culture, ça a à voir avec une soif profonde. Le ciel peut être fermé, le Seigneur le dit, quand le ciel sera fermé, si un homme, si un chrétien, une chrétienne, une assemblée commence à dire « mais c'est vrai, il y en a assez de ces prières superficielles, je veux voir le ciel s'ouvrir », eh bien, il n'y a qu'une alternative, c'est chercher sa face. Ce lépreux, il a cherché la face de Dieu. Je vous assure, il était très mal, ce lépreux. Et pourtant, il a vécu cette expérience, et c'est peut-être ce lépreux que l'on retrouve pour le dernier repas que Jésus a pris. C'est possible, quoique Jésus a dû en guérir tellement. Mais il est dit que Jésus, un jour, s'est retrouvé dans la maison de Simon le lépreux. Vous connaissez cette affaire. C'était l'apothéose pour cet homme de recevoir Jésus dans sa maison, même si la vaisselle n'était pas en or et en argent comme chez Pilate. Mais quand même, mes frères et sœurs, être touché par Dieu, qu'est-ce que vous préférez? Une bénédiction que Dieu vous donne, je ne sais pas, une grâce de plus? C'est bien une bénédiction, mais être touché par lui, ce n'est pas mieux? Qui vraiment, parce que là on est sous le regard de Dieu, je veux dire, c'est sérieux. La prédication, c'est sérieux. Je disais hier aux ados qui étaient à la maison, mais moi je veux vous parler de l'enfer, parce que l'éternité, il faut qu'on vous en parle. Et moi j'étais furieux quand j'ai vu que dans des librairies chrétiennes, il n'y avait pas un livre sur l'enfer. Parce qu'on a peur d'en parler, parce qu'on a peur que les gens ils vont partir. Si vous parlez de l'enfer dans une église, les gens ils vont partir. Ce n'est pas vrai. Parce que, bien sûr, si on parle de l'enfer, il faut aussi parler du ciel. Parce que Dieu bénit sa parole. Et si on retranche sa parole, Dieu bénira pas justement. Parce que les gens, ils ont besoin d'entendre la vérité. Le ciel est fermé. Oui, sur notre pays, il n'y a pas besoin d'être un grand prophète. Le ciel est fermé. Mais il peut s'ouvrir sur n'importe quel chrétien qui va se mettre à chercher sa face. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Parce qu'il va y avoir, il y a un prix à payer. Quand même, notre frère Jérôme Fabio nous rappelait dans l'exhortation de la Sainte-Seine, ce verset, et hier j'y suis resté une demi-heure sur ce verset justement, et ça m'a interpellé. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc tout nous pousse, même si c'est sûr qu'on n'y arrivera pas, c'est sûr que mais on peut faire d'énormes progrès. Et on peut faire de plus en plus de progrès dans la marche avec le Seigneur. Que de fois nous nous sommes fait avoir. La Bible dit, si mon peuple s'humilie. Parce que même avant de prier, parce que prier pour prier, ça ne sert à rien. Vous comprenez, je veux dire. Je prie. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ceci. Seigneur, donne-moi une femme. Je parle à un garçon, qui essaie. Seigneur, mais si le gars, il est orgueilleux, si le gars, il est méchant, je pense qu'il voudrait peut-être avant qu'il règle le problème, avant d'avoir une femme. Parce que la femme, il ne va pas la garder longtemps. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous voyez, et le problème, c'est cette humilité. Mais Seigneur, mais je veux être humble. Vous avez vu dans la Bible, Dieu fait grâce aux humbles. Et il résiste aux orgueilleux. Ce sont des lois, c'est imparable. On peut jouer la comédie, on peut jouer le faux humble, ou on peut essayer de faire le gars qui est pas orgueilleux. Ça marche pas. La comédie, ça marche avec les gens, mais ça marche surtout pas avec le Seigneur. Mais d'abord, commencer à s'humilier et dire, oui, Seigneur, je veux être humble ce matin. Tiens, je veux être humble. Seigneur, tu as une question à me poser. J'ai une question à me poser. Je vous la pose. Quelle est votre communion avec Dieu? Êtes-vous content, satisfait de votre communion avec Dieu? Ne répondez pas à haute voix, s'il vous plaît. Mais moi, le premier, moi, je trouve que je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Je crois qu'on peut avoir une communion plus profonde avec le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est ça l'humilité. C'est de pouvoir dire, mais non, je ne suis pas satisfait. Je veux une communion plus grande. Vous savez, on n'est pas des machines. Nous sommes des êtres humains avec un côté psychique, les émotions, les sentiments. Nous sommes de chair. Et même si l'esprit doit dominer, il n'empêche quand même qu'on en prend des coups. C'est vrai ou c'est pas vrai? On prend tous des coups. On n'est pas des machines. Et ne nous amusons pas à traiter les gens comme des machines. Fais ci, fais ça. Ça ne marche pas comme ça, le royaume de Dieu. Mais quand on a une véritable communion avec Dieu, il s'en passe des choses. Et il n'y a que ça qui peut satisfaire notre cœur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qu'il n'y a que la communion avec Dieu qui peut satisfaire notre cœur. Quand j'entends tous les dimanches, ah, monsieur Gourmand, le dimanche, je n'ai pas le temps. Vous savez, j'ai mes études. C'est des gens qui ne connaissent pas la communion avec Dieu. Parce que déjà, négocier le culte, pour moi, ça se fait pas. Mais quand on négocie la communion avec Dieu, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est la communion avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si on vous demande de choisir entre un super foie gras, mais vraiment bon foie gras, et un vieux pâté là qui est presque sec. Qu'est-ce que vous allez choisir? Le vieux pâté? Non mais franchement, avec un bon sauterne ou un jurançon, hein, d'accord? Ou un vieux vin blanc là, qui avait de la mousse un peu autour, qu'est-ce que vous préférez? Mais c'est pareil, quand le dimanche, on choisit ses études plutôt que la maison du Seigneur, laissez-moi vous dire qu'on ne sait pas ce que c'est le bon foie gras, moi je peux vous le dire. Ça vous fait rire, mais c'est exactement la vérité. Quand on connaît la communion avec Dieu, c'est extraordinaire. La communion d'un mari et d'une épouse, est-ce que c'est formidable? Est-ce que c'est beau la communion d'un homme et de sa femme? Oui, c'est beau. La protection qu'il peut y avoir dans un couple, lorsqu'un homme protège sa femme, est-ce que c'est une bénédiction? Les sœurs, est-ce que vous vous sentez protégées par votre mari? Madame Gaudevin, la jeune, parce que la vieille, je sais. Mais la jeune, est-ce que vous êtes protégée par votre mari? Je vous ferai remarquer que vous ne connaissez pas la Bible, parce que le mot vieux dans la Bible, c'est honorifique. C'est vrai, monsieur Olé? Voilà, donc chérie, tu vois. Mais est-ce que c'est important qu'une femme se sente protégée par son mari? Mais dans l'église du Seigneur, on devrait tous travailler à cela. C'est merveilleux la communion d'un mari et de sa femme. C'est merveilleux la communion entre des enfants et leurs parents. Mais est-ce que ça peut remplacer la communion avec Dieu? Parce que je crois qu'un homme peut attendre plein de choses de son épouse. Je crois qu'une femme peut attendre beaucoup de choses de son mari. Oui ou non? Mais il ne faut pas se tromper. Parce qu'il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut nous donner. Est-ce que vous le comprenez? Et n'allons pas demander à notre femme ou à notre mari de demander quelque chose qu'il n'y a que Dieu qui peut nous le donner. Et ça, c'est important. Parce que ne mettons pas la pression à notre conjoint, parce que si ou parce que ça. Je crois qu'il y a des choses, c'est le Seigneur qui vous les donnera. Et il vous les donnera si vous avez une véritable communion. Dieu veut cette communion. Parce que tout, écoutez bien, tout procède de cette communion, tout, même nos chants. Nos chants. Est-ce que vous avez aimé chanter ce matin? Bon, les chants. Oui, tu vois, Jérémy, c'était bien. Les chants. La prière. L'adoration. Est-ce que sincèrement, est-ce que vous pensez que si nous sommes tous en communion avec Dieu, les chants seront magnifiques, l'adoration sera magnifique. Est-ce que vous ne le pensez pas vraiment? Et c'est pour ça que vous devez vous appliquer. Nous devons nous appliquer. Peut-être moi le premier parce que je suis le pasteur, mais quand même, nous devrions tous quand même prendre en considération cette affaire. Mais il faudrait peut-être que je cherche ta face avant de venir à l'église. Parce que c'est peut-être comme ça que Dieu donnera des dons spirituels à des frères, à des sœurs. Oui ou non? Vous savez, quand vous entendez quelqu'un qui vous dit, « Monsieur Go, il y a eu une prophétie dans l'église. Cette nuit, j'ai rêvé de ça. » J'ai rêvé de ça. Et ça a été prophétisé dans l'église. Vous ne croyez pas que Dieu a parlé à la personne? C'est arrivé dernièrement. Est-ce que ça ne peut pas se reproduire? Mais si nous cherchons sa face, tout découle des hommes et de femmes qui, après s'être humiliés, après avoir compris que ce n'est peut-être pas la peine de contester avec Dieu, de se poser des questions sur la prière, de poser des questions sur la parole de Dieu, parce qu'on ressemble beaucoup à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce qu'il faut vraiment prier? Moi, quand j'attends quelqu'un qui me dit, monsieur, ça va arriver, ne le faites pas, ça ne sert à rien. Quelqu'un me dit, monsieur Gros, vous allez prêcher sur l'enfer mardi. Vous croyez que ça risque pas d'effrayer les enfants? Mais vous savez, les enfants, on peut leur dire tout ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce qu'on peut dire tout ce qui est écrit dans la Bible aux enfants? Mais les enfants, laissez-moi vous dire que des fois ils sont plus sensibles que les adultes. Croyez-moi. Et je suis persuadé que si nous voulons que nos enfants aillent au ciel, il faut leur dire toute la vérité. S'ils cherchent ma face, c'est-à-dire s'ils prennent du temps, s'ils viennent devant moi, non pas pour chercher, non pas pour tel ou tel problème. On peut avoir ce temps de prière où on dépose tous nos fardeaux. C'est pas important de déposer tous les fardeaux aux pieds du Seigneur. Il doit y avoir un temps. Voilà, Seigneur, je te prie pour ma mère, je te prie pour mon fils, je te prie pour les églises de Toulouse. Voilà, un temps où on prie. On prie, on prie, on prie. Mais après ce temps, il devait y avoir un autre temps où là, on ne se décharge pas parce qu'on l'a fait. On se met devant la présence de Dieu pour le chercher. S'il cherche ma face. Là, Seigneur, je ne suis pas devant toi pour te demander ceci ou cela, ou de bénir Monsieur Régnier, ou de bénir Natacha, parce que je ne sais pas si vous les portez dans la prière, mais je pense que ça vaut la peine de les porter dans la prière. Seigneur, mais là, je suis là devant toi. Je veux un cœur vrai, un cœur droit. Je veux un cœur sincère. Donne-moi de la force, Seigneur, pour chercher ta face. Est-ce que vous savez que vous avez dans le ciel un Père? Si vous avez accepté Jésus-Christ comme Sauveur, Dieu est votre Père. Et vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui vous juge et qui vous accable. Si Jésus avait été comme les religieux de l'époque, eh bien le lépreux, il se serait fait lapider. Ni plus, ni moins. Croyez-moi, faites-moi confiance, le lépreux, il n'aurait pas approché de 10 mètres Jésus, il se serait fait lapider avant. Mais quand il y a la présence de Dieu, les choses changent. C'est pour ça que dans l'Église, nous devons nous appliquer à la prière, nous devons nous appliquer à l'éducation de nos enfants. Est-ce que vous enseignez vos enfants? Si vos enfants sont petits, mais de grâce, partagez la parole de Dieu avec eux. Ne dites pas, oh, ce soir je suis crevé, fais-le toi. Tu ne peux pas faire le partage à vos enfants? Il y a des chrétiennes qui me disent ça. Que quand elles demandent à leur mari, est-ce que c'est pas au mari de faire le partage aux gosses? Moi, je crois que oui. C'est qui le chef de famille? Est-ce que c'est pas au chef de famille de prendre sa Bible et de lire un ou deux versets? Est-ce que c'est pas apprendre à ses enfants à chercher la face de Dieu? Après, on s'étonne. Bon, c'est vrai que chacun est libre, mais quand même, je crois qu'il faut mettre tous les atouts pour que nos enfants puissent se convertir. Oui, mes frères et sœurs, je crois que nous souffrons de voir de la stérilité dans l'évangélisation. Vous aimeriez pas voir davantage de résultats dans l'évangélisation? Vous aimeriez pas voir davantage de fils prodigues revenir au Seigneur? Vous n'aimeriez pas voir davantage de bénédictions dans l'édification spirituelle, comme c'est le cas ce matin, dans l'édification? Et les gens, ils sont là, mais à quoi ça sert d'aller à l'église? Et on ne voit peut-être pas certaines choses. On aimerait voir ceci, alors on organise des réunions, on prévoit des séminaires, on fait des concerts d'évangélisation et des comités, et à ceci, et des chantiers de réforme, en veux-tu, en voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens sont dégoûtés parce qu'ils ne voient rien. Par contre, moi, quand je lis la Bible et que je lis « S'il cherche ma face, je guérirai son pays ». Et mes frères et sœurs, nous sommes l'église du Seigneur, là, dans ce quartier de Sainte-Agne. Nous sommes l'assemblée de Dieu. Est-ce que ce n'est pas possible? Écoutez-moi bien. Est-ce que ce n'est pas possible, peut-être, de reconsidérer certaines choses, de se détourner de ces mauvaises foi? Parce que si Dieu nous demande de chercher sa face, c'est pour qu'on apprenne vraiment à nous détourner de nos mauvaises voies. Et il y a peut-être des mauvaises voies qu'il faut régler. Tout n'est peut-être pas péché grossier, mais c'est peut-être des véritables péchés qui empêchent Dieu de se manifester. La paresse spirituelle, est-ce que ce n'est pas un péché? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de s'en détourner? La timidité maladive, que l'on soit coincé un peu, je veux bien. Mais mes frères et sœurs, est-ce que Dieu n'est pas un Dieu qui donne un esprit de force, d'amour et de sagesse? Est-ce que Dieu, dans sa maison, ne veut pas que tous nous puissions prier? Moi, je me suis réjoui mardi d'entendre des personnes que je n'avais jamais entendues prier. Ça m'a encouragé de voir qu'il y a des frères qui me disent « Mais c'est vrai, il y a un combat. Si Dieu nous demande de prendre des armes, il ne faut pas rêver. C'est qu'il y a une guerre. C'est une guerre spirituelle, j'en conviens. Mais c'est quand même une guerre. Il y a eu vraiment une guerre. » Et je disais aux ados hier soir, mais l'enjeu de cette guerre, ce n'est pas des territoires, ce n'est pas géographique, c'est le salut des âmes. Nous ne nous rendons pas compte que la prière, ce n'est pas juste pour nos petits bobos. La prière, c'est le salut des âmes. L'évangélisation de notre pays, ce n'est pas des réunions super sympas où on est content de se retrouver. L'évangélisation, c'est prêcher la croix pour que les gens n'aillent pas en enfer et pour qu'ils aillent au ciel. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait faire rentrer plein de Toulousains dans le ciel si on cherchait la face du Seigneur? Moi, je le crois vraiment. Moi, je le crois vraiment. Et c'est Dieu qui le fera. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. La chair, ça ne sert à rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit le Seigneur. Et quand Dieu voit notre soif, notre détermination, notre désir, il n'y a que Dieu qui voit. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas si vous avez soif, pas de bénédiction, mais soif de sa face. Il n'y a que Dieu qui voit si vous dites « Oh, c'est le Seigneur ce matin, mais c'est pour moi. J'ai besoin de chercher ta face. Je veux que tu fasses briller ta face sur moi. » Combien serait guéri si Dieu faisait briller sa face sur nous? Que se passerait-il? Sérieusement, on peut répondre, on peut en faire un débat avec la jeunesse. Que se passerait-il si Dieu faisait briller sa face sur nous? Combien seraient délivrés de leur esprit de jugement? Il y a déjà, ils ont un esprit de jugement. Ils sont tout en train de juger, de critiquer. Et celle-ci, et celle-là. C'est pas... Ils seraient délivrés de ça. Parce que je crois, comme l'a dit Jérôme, que quand on est spirituel, on a de l'amour pour les gens. C'est vrai ou c'est pas vrai? Après, c'est vrai qu'il faut dire aux gens, fais gaffe à ci, fais gaffe à là. C'est sûr, il faut le faire. Mais combien seraient guéris de leur insomnie, peut-être? Est-ce que Dieu peut délivrer de l'insomnie? Est-ce que Dieu peut guérir de la misère? Vous savez, de cet état d'esprit misérable. Il y a des chrétiens, dès qu'ils parlent, vous le savez d'ailleurs, il n'y a pas des chrétiens que vous avez déjà fui? Allez, on baisse la tête et on répond. Sérieusement, c'est pas arrivé des fois? Pourquoi? C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'on savait qu'ils allaient nous décourager. Et ces chrétiens-là, on n'a pas, nous, à notre tour, à les juger, bien sûr, mais on doit prier pour qu'ils soient guéris. Et le seul moyen, c'est pas des séances de ceci ou de cela. Le seul moyen, c'est chercher la face de Dieu. Si tu cherches ma face, et si tu te détournes, je guérirai. Et moi, je crois que Dieu peut guérir notre pays. Moi, je le crois. S'il trouve un homme, une femme, une église, que Dieu soit béni, qu'il puisse trouver cette assemblée. Mais ça va demander du ménage. Moi, je vous le dis. Que l'on puisse commencer à se détourner de nos mauvaises voies. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont des mauvaises voies? Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. C'est Dieu qui doit vous le dire. Tiens, ça, ce n'est pas bien. Ou alors, est-ce que vous allez faire comme moi, je vois des fois dans nos réunions, le nombre de gens qui cherchent des programmes. Un programme. Combien de gens m'ont dit, Monsieur Gau, quel est le programme de l'Église? J'ai dit, il n'y a pas de programme. Ah bon, vous n'avez pas de programme? Comment voulez-vous que votre Église grandisse? Ah mais si, il y en a un. Il n'y en a qu'un programme, c'est chercher sa face. Est-ce que vous le croyez? Mais c'est la parole de Dieu. S'il cherche ma face, si tu cherches la face de Dieu, si je cherche la face de Dieu, si nous cherchons la face de Dieu, ensemble nous allons le trouver. Mais est-ce que ce n'est pas ça le vrai réveil? Est-ce que ce n'est pas ça le vrai, vrai, vrai réveil? Une église qui se réveille, qui dit non, ça c'est pas bien, je ne le fais pas. Ça, ce film, c'est pas bon, il y a de la grossièreté, il y a de la vulgarité, je ne le regarde pas. Ces propos, cette émission, non, les guignols des infos, moi ça m'est arrivé une fois ou deux de le regarder, parce que je trouve que c'est super bien fait. Mais chaque fois, j'ai été reprié, convaincu de péché, parce que c'est pas bien. Et pourtant, c'est super bien fait. Vous comprenez? Ça, il faudra peut-être l'effacer. J'en sais rien. Mais c'est pour vous dire que moi aussi, je peux me faire piéger. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas regarder, parce qu'ils font que se moquer. Et la Bible dit « Malheur à l'homme qui s'assoit en compagnie des moqueurs ». C'est écrit ou c'est pas écrit? Voilà, ce sont des choses. Et quand on cherche la face de Dieu, voilà, on n'est plus dans la « oui, mais il a dit ça, mais il faut pas non plus exagérer ». Ce n'est pas une question d'exagérer, c'est une question d'obéir à la parole de Dieu. S'il cherche ma face, je le guérirai. Oui, moi je crois que c'est ça, le vrai réveil. Une église qui cherche la face de Dieu. Comment pouvons-nous atteindre les gens si on est rempli du Saint-Esprit? Moi je me souviens, le gars qui m'a, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le gars qui m'a parlé de Jésus. Moi je trouvais que les gens qui étaient chrétiens, ils étaient, je le dis franchement, ils étaient bêtes. Pour moi, être chrétien, c'est être faible. C'était des gens qui, comme les enfants, ont besoin de petites histoires. C'était des contes de fées pour adultes, moi, la chrétienté. Mais je me souviens ce jour où ce gars il m'a dit, tu sais, Jésus, prends ces choses au sérieux. C'est Dieu qui est venu sur la terre. L'histoire de l'incarnation, c'est pas une blague. C'est Dieu qui s'est dépouillé et qui est venu sur la croix porter tes péchés. Et je peux vous dire qu'à partir de ce jour-là, ça a duré un an, jour et nuit. Même quand je buvais en boîte de nuit, que j'essayais de m'étourdir, jour et nuit, j'étais convaincu de péché jusqu'à ce que je cède. Et quand je revois ce frère et que je lui dis, ah, tu te rappelles? Il me dit, oui, c'est l'époque où j'étais rempli du Saint-Esprit. Et à cette époque-là, comme par hasard, il avait amené plein d'âmes au Seigneur. Moi, entre autres, qui suis devenu pasteur. Et je vous le dis parce que je crois que le vrai programme, il est là. Des hommes et des femmes qui se disent, voilà, je vais chercher la face de Dieu. Je vais demander à Dieu qu'il me conduise. C'est pas à moi de vous dire, faites ceci, participez à cela, venez à la réunion de prière. Vous croyez que le Saint-Esprit, il est capable de vous le montrer? Vous croyez que le Saint-Esprit, il est capable de vous donner le fardeau des âmes? Comment atteindrons-nous les autres si nous-mêmes ne sommes pas touchés? Comment amènerons-nous les gens à la repentance si quand nous avons besoin de nous repentir, nous ne nous repentons pas? Parce que d'après vous, il n'y a que les païens qui ont besoin de se repentir? Est-ce que les chrétiens, ils n'ont pas besoin de se repentir de temps en temps? Comment allons-nous amener les gens à prier si nous-mêmes, nous ne prions pas? Je me souviens un jour de cette chrétienne qui est arrivée à 7h30, c'est la réunion de prière. Elle me dit, où sont les chrétiens? Je lui dis, ils vont arriver. Mes frères et sœurs, comment allons-nous amener les gens à prier si nous ne prions pas? Mais moi, je peux vous dire que quand une église prie, les gens qui arrivent, qui nous voient prier, eh bien, on leur donne l'exemple. C'est pour ça, mes frères, les papas, les mamans, n'ayez pas honte de prier. Prions courtement, mais ayons des prières ferventes. Moi, j'ai été touché, je me souviens, par des gens. La première fois que je suis entré dans une église, il y a une dame qui prie, « Seigneur, bénis le jeune qui vient de rentrer. » Là, je me retourne, il n'y avait que moi comme jeune. Je me dis, cette femme, elle ne te connaît pas? Et elle prie pour toi? Apparemment, Dieu l'a exaucé. Mais mes frères et sœurs, est-ce que ça ne vaut pas la peine de prier? De prier de tout notre cœur. Oh, vous savez, monsieur Gros, je suis timide. Mais Dieu, quand vous passerez devant Dieu, vous allez regretter d'avoir dit ça. Seigneur, que ma vie soit utile. Que je puisse venir. Comment je vais amener les gens à avoir faim et soif si déjà moi-même, je n'ai pas soif? C'est pas possible. Comment je vais amener les gens à se détourner des mauvaises voies si les gens me disent, mais tu fais pareil? Tu fais pareil? Qu'est-ce que tu me dis qu'il ne faut pas fumer? Et toi, tu fumes? C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu me dis de ne pas faire ça? Et tu le fais? Quel hypocrite! Et les gens, ils ont raison en plus. Que les gens soient... Il y a des fois, vous savez, les païens, c'est bien, parce qu'ils disent les choses comme il faut. Peut-être pas avec le tact qu'il faudrait, mais ils le disent. Et c'est bien qu'on les entende. Alors, on va terminer en demandant au Seigneur sa grâce. J'aimerais qu'on se recueille vraiment. Qui veut se détourner? Qui veut voir la bénédiction dans son mari, dans son mariage? Est-ce que vous croyez que quand on cherche Dieu, il n'y a pas la bénédiction dans un foyer? Vous croyez que quand un homme cherche Dieu, il ne va pas respecter sa femme? Que quand une femme cherche Dieu, elle ne va pas respecter son mari? Que quand un couple cherche Dieu, les enfants ne vont pas être bénis? Franchement. Alors on va... J'aimerais peut-être compris, parce que, je ne sais pas, il y a un frère qui... Est-ce que... comment il s'appelle? Cyril Becker, est-ce que vous êtes là? Vous êtes là, Cyril? Non, il a dit non. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu? Moi, j'ai à cœur de prier pour Sylvie. Sylvie avec Thierry. Sylvie, il est là, Thierry? Ouais. Voilà, si Thierry fâché maintenant, viens. J'aimerais qu'on puisse prier pour celui ou celle qui a besoin de la grâce de Dieu. Peut-être Claudine, si tu veux revenir. Je crois qu'il y a des chants. Jérôme, vous pouvez venir, les musiciens, s'il vous plaît. Vraiment, il nous reste 5 ou 6 minutes. J'aimerais qu'on l'utilise vraiment. Et qu'importe si ça dépasse un peu, mes frères et sœurs, est-ce que ça vaut pas la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine que Jésus nous touche? Ça valait pas la peine que ce lépreux risque la lapidation? Et vous avez vu ce qu'il a été? Vous avez vu ce qu'il a reçu? J'ai vraiment à cœur de prier pour Thierry et Sylvie, pour Claudine. Il y a peut-être un frère, une sœur, qui a un conjoint converti, Il y a peut-être quelqu'un qui est malade. On doit vous aider. On doit vous aider. On doit vous aider. Dans une église, on l'a entendu à la Sainte-Seine, on doit s'aimer les uns les autres. Et quand on prie pour les uns pour les autres, on manifeste de l'affection. Alors, avancez-vous, vous qui avez besoin. Avancez-vous, s'il vous plaît. Jérôme, s'il vous plaît, faites chanter un cantique. Voilà, Sylvie, tu viens, David Thierry. Voilà, Claudine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin, compris pour lui? Quelqu'un qui est fatigué? Quelqu'un qui a besoin d'une direction? Quelqu'un me disait encore ce matin, Monsieur Gau, j'ai trouvé un travail. Vous voyez? Une autre personne, j'ai trouvé un travail. Dieu m'a béni. C'est pas une grâce, ça? Alors, vraiment, venez. Monsieur Gaillard, s'il vous plaît, venez prier. Monsieur Olé, les frères, les jeunes frères, s'il vous plaît. Janson Sinarinzi, venez, s'il vous plaît. On va prier pour ces bien-aimés. Et vous qui restez assis, ne regardez pas qui c'est qui vient, c'est pas important. Mais dites, Seigneur, donne-nous de chercher ta face. Priez vous aussi, priez avec nous. Priez avec nous. Priez avec nous. Et vous verrez que celui qui arrose, il est arrosé.